merci, professeur, pour cette présentation tout en finesse des textes même d'Henri Dunant sur le double problème de la colonisation et de l'esclavage. C'est une étude qui nous permet beaucoup mieux d'entrer dans le personnage. Et effectivement, les questions soulevées sont très importantes et très brûlantes quelque part. Et elles nous concernent aussi, nous, directement, parce que le Henri Dunant, quand même un humanitaire, un chrétien, un homme qui est animé de bonnes intentions, mais qui veut aussi gagner de l'argent, il nous parle comme quelqu'un assez proche de toute notre civilisation occidentale. Donc c'est particulièrement intéressant de voir son cheminement et de mesurer aussi à quel point il a peu parlé, il a peu traité ces questions très importantes. Il les a plutôt utilisées comme des moyens de combat. Alors, je pense que le mieux, c'est que maintenant, nous proposions à chacune et à chacun de poser des questions, demander des compléments d'informations, exprimer des opinions, parce que c'est aussi un des buts de l'échange. Avant, naturellement, de faire la promotion du livre, je le fais déjà, mais vous allez prendre plusieurs fois, parce que le professeur Zeman vient de publier ce livre où, dans une douzaine de chapitres, il analyse autant de jeunes voix avec la même finesse, mais aussi avec beaucoup de... On découvre là des points de vue, des engagements, des activités. Plusieurs d'entre elles, moi, je signerais complètement.
Moi aussi, vous êtes la vérité.
C'est très, très impressionnant. Donc, ensuite, on parlera de la possibilité pour vous d'acquérir ce livre. Je pense que c'est particulièrement intéressant parce qu'il traite du nom, mais il traite aussi Moynier et il traite un certain nombre d'autres jeunes voix qu'on connaît pas très bien. Vous qui habitez vers chez Bougerie, Sismondi, c'est une des grandes figures aussi de, par rapport
il est à ses... Il est enterré au cimetière de Conches.
Voilà. Oui. Alors,
Et sa maison est maintenant abrite la mairie de Chêne-Boucherie.
Alors, Stéphane, volontiers.
Je voudrais venir savoir qu'est-ce qui a fait tout. Comment est-ce que Dunant, qui au départ n'était pas contre l'esclavage, a changé de côté pour ensuite le dénoncer et se battre contre ça? Quel est le moteur qu'il a tout d'un coup? Quelle est l'étincelle qui l'a tout d'un coup animé de ce besoin de lutter contre cette injustice?
Alors, je pense qu'il était contre l'esclavage. Sans aucune hésitation anti-esclavagiste. Il a applaudi d'ailleurs et il a beaucoup valorisé dans son texte la décision qui a été prise par le souverain, il s'appelait le B-E-Y, le souverain de Tunis, que Dunant considérait comme un homme particulièrement éclairé et en avance sur son temps. Et il a célébré dans son texte le progrès que constituait l'abolition de l'esclavage dans la régence de Tunis, et comme je l'ai dit, et à juste titre, il a insisté sur sa précocité. Maintenant, ce que Dunant fait surtout, c'est qu'il compare. Il est anti-esclavagiste au niveau des principes, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va comparer l'esclavage qui a existé dans le monde musulman avec l'esclavage qui est en place dans le monde américain. Et ce qu'il dit, c'est que les Européens ont fait preuve lorsqu'ils ont asservi les millions de captifs noirs à qui ils ont fait traverser l'Atlantique. Ils ont implanté un système cruel, brutal et inacceptable d'un côté, mais doux et bénin de l'autre. Je pense que c'est là où on peut le reprendre. Mais il reste un anti-esclavagiste convaincu. Ce qui le fait changer d'idée, c'est la découverte en Europe, dans le dernier tiers du 19e siècle, qu'à côté de la traite atlantique, il existe une autre traite d'exportation, organisée par les marchands arabo-musulmans. Que cette traite arabo-musulmane commence avant la traite occidentale européenne. Que les Européens ne sont pas des diables qui ont inventé la traite. Elle existait déjà. Autre élément, Dunant et les personnes qui, comme lui, découvrent cet aspect, se rendent compte que l'esclavage étant endémique en Afrique même, qu'il y a un esclavage à usage domestique. Et c'est ça qui va en quelque sorte alléger le fardeau de l'homme blanc, comme on dirait, que Dunant voulait charger de manière excessive lorsqu'il disait que l'esclavage dans les Amériques est pire que l'esclavage en terre d'islam. Oui. C'est ça qui le fait changer d'avis. Mais de bout en bout, et je pense qu'il ne doit y avoir aucune hésitation à le dire là-dessus, Dunant est un anti-esclavagiste. Oui.
À votre avis, il était au courant déjà des bateaux négriers qui partaient pour l'exploitation
Ah oui, à l'époque, oui, bien sûr. Ceci, vous remontez avant le milieu du XVIIIe siècle, avant 1750, qu'en Suisse ou à Genève, on était peu informé. Il y a eu quelques écrits en Suisse, mais qui étaient peu lus. D'ailleurs, le taux d'alphabétisation en Suisse n'était pas si élevé avant le milieu du XVIIIe siècle. Mais à l'époque de Dunant, au milieu du 19e et encore plus dans le dernier tiers de ce siècle, on était très largement au courant de l'existence de la traite, d'autant plus qu'il y avait à Genève des sociétés abolitionnistes qui se sont constituées dans les années 1860-1870, qui combattaient non seulement la traite négrière qui était en voie de disparition sur l'Atlantique, mais qui combattaient également l'esclavage en Afrique même, et surtout qui combattaient la traite organisée par les arabo-musulmans. Donc Dunant était bien au courant, bien entendu. Madame.
Je me pose la question, est-ce que la traite négrière américaine, est-ce que ces esclaves étaient vendus par les marchands arabo-musulmans? Comment ils se fournissaient?
Alors, c'est deux circuits différents.
Complètement?
Oui, c'est totalement différent.
Qui se
oui. Alors, les captifs africains qui étaient acheminés vers le monde musulman pour y être asservi, suivaient des circuits, des itinéraires, des routes, si vous voulez, totalement différents. Alors que les Européens organisaient une traite qui passait exclusivement par la traite, par l'Atlantique. C'est-à-dire que la traite européenne partait des côtes d'Afrique occidentale, quasi exclusivement pour être ensuite les captifs transportés vers les Amériques, Antilles, sud des États-Unis, principalement Brésil.
D'accord, mais comment ils se fournissaient dans l'Afrique même ?
Ah, c'était des Africains qui organisaient des razzias, qui allaient capturer des individus, hommes, femmes, enfants, qui étaient ensuite vendus, soit à des traitants, à des marchands arabo-musulmans, soit à des marchands négriers européens.
Donc il y avait la même origine quand même.
Oui, ouais. Alors les captifs noirs destinés à être vendus dans le monde musulman viennent de régions beaucoup plus diverses que celles vendues par les Européens pour être acheminés à travers l'Atlantique. Donc il y a... Ça ensuite, c'est des questions de spécialistes, mais il faut bien voir que c'est un marché et qu'il y a d'un côté les fournisseurs africains et puis de l'autre ceux qui viennent chercher les captifs pour les acheminer dans les lieux dits d'importation.
Oui.
Madame.
J'ai plusieurs questions, mais la première, c'est la suivante. C'est pour revenir sur ce que vous avez dit sur la perception dominante de la société, notamment tunisienne. Donc vous avez dit qu'elle était en partie fausse, qu'il n'avait pas perçu l'inégalité dans la société. Et j'aimerais savoir si par vos lectures, vous pouvez nous éclairer sur peut-être la raison justement de cette mauvaise perception. Est-ce que vous pensez que ça vient du fait qu'il a mal observé, ou bien au contraire, c'est une raison politique, comme on sait, enfin, politique, ou économique, puisqu'on sait qu'il avait quand même, à ce moment-là, certains intérêts en Afrique du Nord. Est-ce qu'il a lui-même été minimisé pour plaire aux dirigeants?
Oui.
Ou au contraire, est-ce qu'il a simplement... est-ce que ses yeux d'Européens ont mal vu parce qu'il n'avait pas les codes de la société pour bien comprendre en fait cela? Quel est votre avis là-dessus?
Je crois que vous avez répondu à la question. Il voulait plaire.
Oui.
Il voulait plaire. Il voulait séduire. Il va en Tunisie à une époque où ses affaires algériennes battent de l'aile, où il a des doutes sur la réussite de ses affaires. Et son déplacement à Tunis est en quelque sorte pour assurer d'éventuelles arrières au cas où ses affaires ne marcheraient pas. Et alors, il va écrire cette notice sur la régence de Tunis et il va faire figurer sur la couverture des armoiries et qui rappelle l'islam pour plaire au souverain. Et il l'offre d'ailleurs, il l'offre au souverain de Tunis. Oui, moi c'est un grand séducteur. Mais vous avez répondu en partie à la question, oui, bien sûr.
Il a reçu une superbe médaille.
Oui, effectivement, dont il était fier.
Dont il était très fier.
Oui, oui.
Absolument magnifique.
Oui.
Donc, du coup, ma seconde question, c'est un peu la suite. Donc, quand vous avez parlé du revirement, vous avez aussi expliqué qu'il avait donc, lu, en fait, les récits des explorateurs, notamment. Est-ce que c'est vraiment ça qui l'a fait changer d'avis, ou bien est-ce que c'est son amertume par rapport à ses affaires où il n'a plus besoin de plaire? Est-ce qu'on sait cela ou pas? Et puis est-ce que, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il était foncièrement anti-esclavagiste parce qu'il avait justement compris qu'il y avait des marchands arabo-musulmans, enfin que la traite était antérieure en fait en quelque sorte en Afrique.
Au niveau des principes, il était contre l'esclavage. c'est avant même peut-être d'aller en Algérie et en Tunisie, ou même de découvrir l'existence par ces déplacements, de voir des... Par exemple, il parle de marché d'esclaves, vous voyez. Mais au niveau des principes, c'est-à-dire au niveau de ses idées, avant même son aventure, ses aventures maghrébines du Nord, est anti-esclavagiste. Tous les auteurs qui apparaissent dans le livre, qui ont écrit sur la colonisation et l'esclavage, ont un point commun, un seul, c'est leur anti-esclavagisme. Ils sont tous anti-esclavagistes.
Mais pour la colonisation.
Mais pour la colonisation.
Non, mais dans le sens que, quand vous avez dit qu'en lisant justement ces témoignages, ça leur permet de dire bon, c'est pas trop grave ce que les Blancs ont fait, puisqu'il y avait pire avant, c'est une manière de se disculper, de disculper les Blancs. Mais c'est pas une manière de dire non, oui. Nous sommes contre cela.
C'est-à-dire que Dudon va se lancer dans. Une action qui va le mener à Londres, notamment, ou dans des milieux abolitionnistes, parce que c'est la Grande-Bretagne qui est abolitionniste, qui est la grande nation qui va mener le combat abolitionniste en Europe. Dunant rencontre des gens avec qui il échange et discute. Et c'est là où il voit des informations apparaître sur la traite arabo-musulmane. Et je pense que il y a un deuxième élément, mais qui n'apparaît pas dans ses écrits, mais qui, à mon avis, a dû peser. Les Européens découvrent que l'esclavage, c'est quelque chose qui existait en Afrique même, avant les traites dites d'exportation. Et là, ça va faire réfléchir Dunant qui se rend compte que peut-être qu'il a trop mis l'accent sur un aspect, à savoir les responsabilités européennes, d'avoir instauré un système comme celui-là dans les colonies américaines. Et quand l'Europe découvre l'existence d'une autre traite d'exportation, et d'un esclavage qui est, entre guillemets, interne ou domestique, les Européens vont essayer, on dirait aujourd'hui, de faire la part des choses. Oui.
Oui, je dirais qu'il y a une autre manière de voir l'esclave, parce que, bibliquement, il y a des esclaves qui ont été honorés. Il y a une autre manière où soit l'esclave est méprisé, écrasé, soit l'esclave fait partie de la maison. Il y a deux manières de voir un esclave.
Oui. Oui. Il y a deux manières, effectivement, mais l'esclave reste dans les deux manières de voir la possession.
Oui, mais pas
c'est-à-dire que l'esclave ne se possède pas en tant qu'être. Même quelqu'un qui fait partie de la maison peut à un moment donné, selon les circonstances, être vendu contre son gré, être séparé de la maisonnée, de la famille, des enfants, des parents. Je pense que en dernier ressort, c'est ça, au fond.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'un esclave ? Au-delà des formes que cela peut revêtir, plus ou moins douces, plus ou moins brutal, évidemment. Mais en dernier ressort, c'est ça. La personne ne se possède pas elle-même. Elle est à quelqu'un d'autre.
Ouais.
Elle a fait l'objet d'une transaction sur un marché. Vous voyez, je pense que
comme un objet.
Oui. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Oui, vraiment. Oui.
Parce qu'il y a eu. Non, mais. On peut voir par là-bas, à Washington, les maisons des esclaves qui avaient été établies pour leur famille, protégées, honorées. Donc il y a différentes manières de voir l'esclave.
Oui, alors l'esclave n'était pas utilisé, pour ne pas utiliser un autre terme plus dramatique, n'était pas utilisé de la même manière. Vous aviez des esclaves de maison qui faisaient partie de la domesticité. Je ne sais pas si vous avez vu Autant n'emporte le vent.
Oui, oui.
Mais oui, bien entendu. Alors vous voyez quel est le lien qu'il y a entre la maîtresse, cette magnifique propriétaire de plantation, et sa domestique. C'est presque une confidente.
C'est fusionnel.
Oui. Donc c'est mais ça reste quelqu'un qui a ce statut. Et tout le monde le sait. La maîtresse le sait, l'esclave le sait. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de tels liens. Oui. Et ces liens peuvent porter à, par exemple, réserver un sort, à construire un endroit qui est plus confortable, aménager peut-être, je ne sais pas, moi, les enfants qu'on peut envoyer à l'école du dimanche. Enfin, on appelle ça comme ça ici.
Oui.
Oui. Mais ce sont des formes, oui, mais qui ne changent pas oui, à l'essence.
Je suis complètement d'accord avec vous. Il me semble que c'est aussi bien de rappeler qu'au XIXe siècle, les Européens, ou les chrétiens de l'hémisphère nord, ont quand même une structure mentale hiérarchique assez différente de la nôtre. Ils sont convaincus d'être supérieur, il prononce le mot race très très volontiers, avec une idée de classification des races, et un des points qui est un petit peu troublant, et j'aimerais être rassuré sur ce point-là, c'est que même les anti-esclavagistes, auxquels Henri Dunant appartient fondamentalement, ça fait partie de son ADN, comme membre du réveil, comme membre de la société évangélique, on est contre l'esclavage. Mais, et ça m'amène à mon autre question, est-ce que véritablement, malgré cette condamnation totale de l'esclavagisme, il y a une perception du noir comme un être humain égal au blanc?
Pas encore. Pas encore. Mais ça vient. Au fond, tout est question du moment auquel vous vous placez dans le temps. Jusqu'au début du 19e siècle, peut-être jusqu'à la première moitié du 19e siècle, même des anti-esclavagistes ou des abolitionnistes ne considèrent pas le noir comme un égal. Et puis, vous allez avoir un durcissement des fronts dans la seconde moitié du 19e siècle. Et là, on a affaire à des abolitionnistes alors qui ont qui sont plus pour dire « Ah, le pauvre, nous sommes compatissants. Au fond, on peut... » C'est le sou du prochain, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait dans les églises, il y avait un petit objet. Un petit personnage qui était noir,
et on pouvait mettre un sou. Qui avait une fente sur le crâne.
Voilà, c'est
et,
ça.
Les personnes venant à l'église, les fidèles, mettaient en sortant des pièces.
Oui.
Et il y avait un système mécanique, comme quoi, dès que la pièce tombait, le petit personnage bougeait la tête pour dire merci.
Oui, oui.
Et ça, je l'ai vu encore, c'était l'église de Coppet, l'église protestante de Coppet, où j'ai passé mon enfance.
Oui, oui.
C'était pour la mission.
Oui,
pour
l'émission.
Pour l'émission.
Oui, c'était de l'argent récolté pour l'émission.
Oui, 3D, j'ai aussi vu ça. fallait mettre une pièce de 20 centimes pour que la tête bouge. Si on met 10 ou 5 centimes, ça suffit. Mais j'entends la perception du joint comme un être humain à part entière, comme vous l'avez dit, en tout cas jusque dans les années
1850. Oui, oui, oui. Alors l'exemple, c'est Sismondi. Sismondi, il fait comme du Nord, c'est-à-dire il dit les deux. Il dit les deux, mais je dirais que Sismondi, son cas est un petit peu plus grave parce qu'il le fait en même temps, pratiquement. Ça veut dire, il parle de race inférieure et de race supérieure. Oui? Mais en même temps, il dit, on n'arrivera à rien si on ne parvient pas à faire élever le noir au niveau de l'homme blanc dans les États-Unis de l'époque. Et il dit, on changera les choses réellement lorsqu'aux États-Unis, il y aura des hommes politiques, des avocats, des professeurs d'université noirs. Mais ça n'empêche pas, quelques pages ailleurs, de dire qu'il y a des races inférieures et des... Ce ne sont pas des personnes qui vivent à une époque où les choses, comme vous l'avez dit, sont triées et hiérarchisées. C'est mélangé. Vous voyez? C'est parce qu'il y a des choses qui apparaissent, qui ne l'ont pas emporté. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le politiquement correct vous empêche de dire certaines choses parce qu'il y a des choses qui l'ont emporté. Eh bien, à l'époque, ce n'était pas comme ça pour beaucoup de questions. Il y avait des questions qui se mélangeaient, qui se chevauchaient. Et puis, on pouvait être un anti-esclavagiste convaincu, mais être un fervent partisan de la colonisation. Et même dire que pour que la colonisation continue, il faut abolir l'esclavage. Et c'est intéressant comme séquence, comme moment. Mais c'est un moment. Après, ça va changer. Mais durant un certain nombre, durant un laps de temps, vous avez ce mélange des genres qui, pour nous, c'est si vous mettez les lunettes d'aujourd'hui puis que vous disiez ça, je ne sais pas, vous pouvez dire... en tout cas, vous êtes déstabilisé, ça c'est sûr. Et puis vous vous dites, mais comment je peux réagir par rapport à ça? Est-ce que je dois appliquer les morales qui sont les miennes d'aujourd'hui? Ou est-ce que je dois me mettre à la place de la personne qui parle il y a 200 ans, il y a 150 ans, et puis qui avait des perspectives totalement différentes, des valeurs totalement diverses, et dont l'horizon n'était pas le mien? Pourquoi est-ce que moi je dois aujourd'hui demander à ce que lui, il y a 250 ans, il dépasse l'horizon qui était le sien? Et on est pris. Il y a des gens qui me disent, oui, mais au fond, qu'est-ce que vous pensez, vous? Ils me disent. Je dis, mais moi, je peux vous donner mon avis de citoyen d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas mettre mon avis de citoyen d'aujourd'hui dans mon travail d'historien. C'est ça.
Oui. Mais c'est étonnant, c'est toujours focalisé sur les noirs, et pas sur les jaunes, les rouges. Tout est focalisé toujours sur les noirs.
Oui, parce que l'Europe, l'histoire de l'Europe, note.
Oui, c'est ça.
L'histoire de l'Europe fait que il y a pendant assez longtemps ce phénomène de la traite négrière, et puis surtout, je dirais, regardez ce que les Californiens sont en train d'essayer de faire aujourd'hui en se réunissant sous l'initiative du gouverneur du plus grand État des États-Unis, qui est la cinquième puissance économique du monde. Ils essayent de réfléchir à la question des réparations. Moi, je leur souhaite bonne chance. J'aimerais pas faire partie de la commission. Non, je pense que c'est quelque chose qui est là, et c'est quelque chose que vous vivez lorsque vous vous promenez aujourd'hui dans les rues. Moi, je suis arrivé à Genève à l'âge de 6 ans et demi, et je vous assure que le paysage humain a changé à Genève.
Complètement. Ah, complètement. Oui. On est tous d'accord.
Et vous côtoyez maintenant des groupes de population qui ont vécu une histoire qui ne ressemble pas du tout à la vôtre. C'est pour ça que c'est si sensible. Vous n'aviez pas besoin de vous poser les questions que moi je me pose aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de faire de l'histoire. Ça change tout le temps. Parce que le monde dans lequel vit l'historien change.
Oui. Même l'histoire proche, mes parents qui sont nés au début du XXe siècle étaient foncièrement contre l'esclavage, on en avait parlé, mais ils étaient absolument ravis de tout ce que les colonies avaient pu apporter dans ce monde, dans les une quantité de parties du monde,
oui.
Et ils en parlaient aussi.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est pas tellement loin de nous, tout ça.
Non, non, bien sûr, bien sûr.
Oui, et nous n'avons pas beaucoup parlé d'Orée du Nord par rapport à la colonisation, parce que là, le tableau est quand même plus troublant qu'Orée du Nord par rapport à l'esclavage. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre moment. Mais.
C'est peut-être parce qu'il avait un intérêt personnel. Il n'avait pas d'intérêt personnel dans l'esclavage en terre d'islam, ni dans une traite négrière, quelle qu'elle soit. Jamais, à aucun moment. En revanche, il est partie prenante de quelque chose qui se passe en Algérie et dont il veut tirer quelque chose pour son profit personnel. Je pense que c'est ça qui vient troubler un peu notre perception.
Mais après l'échec algérien, il va faire une nouvelle tentative en direction de la Palestine.
Oui.
Et là aussi, il a un comportement de colonisateur.
Oui, mais bon.
Oui, oui,
oui. Oui, oui, mais bon, on s'en refait pas.
Voilà, c'est ça. mais comme vous l'avez souligné, dans les écrits depuis les années 1890, notamment l'avenir sanglant, alors là, apparemment, il fait une conversion
oui.
complète. Mais comme vous le soulignez, je n'avais pas réalisé à quel point, et merci de l'avoir fait, c'est que depuis 1890, il n'a plus d'intérêt, on pourrait dire, matériel, concret, par rapport à la colonisation. C'est fini. Il est à Haydn, et puis il peut... livre à ce moment-là des grandes vues philosophiques,
oui.
politiques,
oui.
religieuses, etc.
Oui.
Alors que jusqu'alors il y avait un espoir de se refaire par la Palestine.
Oui.
C'est assez oui. troublant et impressionnant.
Oui.
Mais voilà, chers amis, nous avons quand même eu un échange magnifique. Je vous propose de réapplaudir au professeur. Merci.